le monde au féminin.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Aux États-Unis, David et Louise Turpin, des parents ayant infligé pendant des années des actes de maltraitance à 12 de leurs 13 enfants, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité le 19 avril 2019 par un tribunal californien. Le couple avait plaidé coupable en février de 14 chefs d'accusation, dont torture et séquestration. L'alerte avait été donnée en janvier 2018 par l'une des filles qui, après 2 ans de préparatifs, avait échappé à la surveillance de ses bourreaux. À leur arrivée, les policiers avaient retrouvé certains des enfants enchaînés à leur lit. Plusieurs souffrent de lésions et déficiences liées aux privations qui leur ont été infligées. Ils sont aujourd'hui âgés de 3 à 30 ans. L'acquittement d'une Malaisienne accusée du meurtre de sa domestique indonésienne après l'avoir torturée et forcée à dormir dehors avec un chien a provoqué l'indignation de militants des droits humains. Adelina So est morte à l'hôpital en février 2018 après avoir été retrouvée devant le domicile de ses employeurs, grièvement blessée au visage et à la tête. Maître Eric Paulsen, membre de la Commission intergouvernementale pour les droits de l'homme et l'ASEAN, a qualifié l'acquittement de choquant et inacceptable et l'ONG Migrant Care en Indonésie a fermement condamné cet acquittement. $64 million de filles de 5 à 17 ans sont astreintes au travail forcé dans le monde. Ce phénomène est souvent caché, bien que su de tous, et difficile à combattre s'il n'est pas traité par des politiques efficaces de lutte contre l'asservissement des filles. Selon l'Organisation internationale du travail, la perpétuation des rôles et responsabilités traditionnellement dévolus aux femmes, au sein et à l'extérieur du foyer, de même que la perception du service domestique comme un apprentissage des filles pour leur vie d'adulte et pour le mariage, contribue également à la persistance du travail domestique parmi les formes du travail des enfants.
Parole de femme.
Les femmes ont payé le plus lourd tribut au génocide de 1994 au Rwanda, notamment en étant victimes de viols en plus des tueries. Selon Justine Mbambazi, spécialiste des questions liées au genre, elles ont beaucoup fait pour la justice transitionnelle. Environ 70% des juges Gachacha étaient des femmes. À ce propos, Idriss Fall s'est entretenu avec Françoise Gahamani, une ancienne présidente de tribunal traditionnel, lors d'un séjour à Kigali à l'occasion de la 25e commémoration du génocide rwandais.
J'étais la présidente du tribunal Gachacha de secteur Kakiru dans Kigali. Les Gachacha, on a d'abord fait les élections des femmes et hommes qu'on appelait les hommes et les femmes intègres pour être juge de Gachacha. Au niveau de la cellule, on était à 8 et 2 suppléants. On a commencé par mettre ensemble les informations, c'est-à-dire d'abord les noms des personnes qui ont été tuées, peut-être même les noms de ceux qui les ont tuées. Les personnes qui ont été tuées dans la cellule, qui sont venues d'ailleurs mais ont été tuées dans la cellule. Les hommes de la cellule qui ont été tués en dehors de la cellule. Toutes ces informations devaient être compilées, mais mises ensemble. Dans tout le pays, je crois que c'était dans les 2 millions de procès.
Quel a été le procès le plus difficile dont vous vous rappelez encore?
Pour moi, le procès le plus difficile, c'était le procès de viol. Parce que la pauvre dame qui était violée, c'était sa parole contre 10 autres personnes qui étaient là. Il y avait le présumé violeur qui jurait que c'était pas vrai. Et les voisins qui devaient l'avoir vu revenir, qui juraient ne pas l'avoir vu. Ça, c'était dur. Et comme c'était à huis clos, ce n'était pas facile.
Et ça s'est terminé comment? Le violeur présumé est reparti libre ou bien ça?
Non, il n'était pas libre. On l'a inculpé parce qu'au fur et à mesure qu'on avait des preuves, on l'a inculpé.
Maintenant, comment ça s'est passé pour les autres? Par exemple, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Ceux qui ont reconnu avoir tué leur voisin, comment ça s'est passé?
On avait des prévenus qui étaient donc en prison. Ils étaient amenés là-bas sur le lieu du jugement. On commençait par lui dire ce qu'on avait dans le dossier, qu'on l'accusait d'avoir tué quelqu'un. On appelait les témoins. Il y avait les témoins à charge et les témoins à décharge. Alors, après avoir entendu tout le monde, on allait délibérer à huis clos, les 8 juges. On allait délibérer. Des fois, c'était facile. Des fois, c'était difficile parce qu'il y en a qui demandaient d'autres preuves. Alors, on avait dû parfois ajourner le procès pour avoir d'autres témoins. Et si on ne se mettait pas d'accord, alors on procédait à l'élection, tout simplement.
Est-ce que par ce processus, vous pensez que beaucoup de victimes ont été satisfaites de ce qui s'est passé avec les personnes qu'ils ou elles accusaient?
Oui, je crois oui. Parce que l'objectif des Gachacha, surtout, c'était, à part la justice, c'était aussi la réconciliation. Pour moi, on a su comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont su comment leurs proches ont été tués ou même leurs proches ont été enterrés. La justice, il y en a qui ont été punis. Il y avait différentes punitions, soit 19 ans d'emprisonnement ou bien à perpétuité ou bien les travaux d'intérêt général. Pour moi, je crois que la justice a été rendue, sauf ceux qui courent encore, qu'on n'a pas encore pu retrouver.
Maintenant, les Gachacha, c'est fini. Est-ce qu'il vous arrive de voir cohabiter dans le quartier d'anciens bourreaux et leurs anciennes victimes?
Oui, dans le quartier ici. Moi, j'ai pratiquement commencé tout le Gachacha. J'ai vu les personnes qu'on a accusées. Il y en a que je vois encore qui circulent. Il y en a que je vois qui ont perdu leur famille, leurs proches et qui sont là, dans le quartier. Tout le monde cohabite, tout le monde vit ensemble, normalement.
C'était Françoise Gamani, ancienne présidente de tribunal Gachacha à Kigali. Et lors de son séjour à Kigali, Idriss Fall a recueilli des témoignages de survivants, mais également de jeunes Rwandais nés après le génocide, pour savoir ce qu'ils retiennent de cette page sombre de l'histoire de leur pays. Il a notamment tendu son micro à Adia Akabibi, âgée de 20 ans.
C'est ce que nos parents ou le Rwanda a subi. Alors ça m'affecte, oui, indirectement, mais ça m'affecte. Parce que, ok, ces générations de avant le génocide est en train de partir, si je peux dire comme ça. Et c'est nous qui sommes en train de prendre le Rwanda ou de... C'est nous le futur rwandais. Alors, si nous oublions ou si on fait comme si on ne veut pas savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on y va ou ce qu'on va être ou ce qu'on veut que le Rwanda soit.
Vous êtes confiant par rapport à l'avenir? Vous avez 20 ans. Comment voyez-vous le Rwanda dans 25 ans?
Heureusement, on a notre président qui veille sur nous et qui nous motive, qui en intéressant aux jeunes qui nous soutient et il veut que la génération, ces générations s'apprennent à ce qui s'est passé et aussi soient fortes. Et surtout, nous savons que pendant le génocide, des gens utilisaient le jeûne. Alors, nous aussi, le jeûne, nous avons le, si je peux dire, le devoir de construire ce qu'ils ont détruit et battre pour notre pays, pour que ce qui s'est passé ne se reproduise jamais.
Vous n'avez pas d'amis que vous considérez comme Hutu ou Tutsi? Quels sont vos relations entre les ethnies ou bien pour vous, vous êtes que rwandaise?
Nous sommes tous le Rwanda. Il n'y a pas de Hutu, de Tutsi, parce que si nous amenons ces choses de Hutu et Tutsi, ça veut dire que nous voulons créer aussi ces choses qui a fait le Rwanda subir le génocide. Et je, mon père me dit souvent, ne t'intéresse pas de savoir il est Tutsi ou Hutu, toi, tu es le Rwanda, vous êtes tous le Rwandais. Alors, je considère tous mes amis comme mes amis, mes collègues, le Rwandais, pas de Hutu, de Tutsi.
C'était Adia Akabibi, jeune Rwandaise née après le génocide de 1994. Dans sa feuille de route sur les objectifs de développement durable, la FAO souligne qu'il est urgent de s'attaquer aux nombreux obstacles que doivent franchir les femmes sur les marchés du travail en milieu rural afin de leur éviter le piège des emplois informels, peu reconnus, non qualifiés et mal rémunérés, sans aucune protection juridique ou sociale. L'organisation onusienne estime qu'il est nécessaire d'accorder une plus grande attention à la reconnaissance de l'importance de leur contribution et à l'accès à une rémunération, des conditions de travail et des avantages équitables.
Et je ne pouvais.
Certains programmes en Afrique favorisent la formation et le financement des jeunes vivant en zone rurale afin de leur permettre d'investir dans l'agroalimentaire et de lutter contre le chômage, comme au Cameroun où environ 2000 jeunes agriculteurs se sont inscrits à un projet soutenu par le gouvernement et le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Plus de précisions avec Irénée Herman Ongbo.
Ferme d'Obala dans la région centrale du Cameroun. Gabriel Etta récolte du poivre. Âgé de 26 ans, il fait partie du groupe de jeunes agriculteurs du pays qui s'est inscrit au programme PEA Jeunes lancé en 2015 pour promouvoir l'agriculture chez les jeunes en vue de créer des emplois et améliorer la sécurité alimentaire, une initiative soutenue par le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement camerounais. Gabriel Etta, entrepreneur agricole, est l'un des bénéficiaires de ce programme.
J'ai beaucoup aimé l'agriculture. Puisque un entrepreneur est appelé à progresser, ne pas être stagnant. Et déjà, si le PEA Jeune m'a financé, ce n'était pas pour que je puisse caler seulement à une seule activité. C'était pour que je puisse progresser, pour que je puisse encore ouvrir d'autres activités qui peuvent encore aider d'autres jeunes.
Cet entrepreneur agricole cultive également du poivron, du concombre et des tomates sur environ 4 hectares. Voilà. Il a bénéficié d'une subvention de $200 américains. À cela s'ajoute une série de formations, notamment en agriculture et en finance, qui a permis à Gabriel Etta d'apprendre à gérer une entreprise agricole rentable.
Lorsque je pars au niveau du marché, je vends, je vois comment ça me produit de l'argent, je suis très fier.
Etta gère également un élevage de volailles qui s'est développé au cours des 3 dernières années pour atteindre plus de 1000 poulets aujourd'hui. Il emploie 3 autres jeunes qui gagnent en moyenne $800 américains et vend ses produits agricoles à des commerçants qui en retour les revendent sur le marché local. Frédéric François, revendeur, est l'un de ses clients.
Il produit un poulet bio parce que c'est ça qui m'a beaucoup marqué et aussi... Ce qui m'encourage chez lui, c'est que chaque fois que j'ai besoin du poulet, il est toujours en production. Donc, ce n'est pas le genre de producteur qu'aujourd'hui vous venez, il a le poulet, demain vous venez, vous ne trouvez pas. Chez Etta, en bon moment, on trouve le poulet presque chaque fois.
Cette année, Etta travaille pour des projets d'expansion de son entreprise agricole. Il ambitionne cultiver aussi des fruits, notamment des ananas et des pastèques.
Et puisque la jeunesse en action n'a pas de frontières, on se rend directement au Togo, où l'on peut faire du sport tout en protégeant l'environnement. En effet, il s'agit là du concept éco-jogging qui permet de brûler des calories et par la même occasion de débarrasser l'environnement des déchets plastiques. Depuis 2 ans, les jeunes se mobilisent ainsi pour la cause environnementale à travers ce jogging hebdomadaire. Notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, s'est jointe à une de ces courses. Voici son reportage.
Chaque samedi, une quinzaine de jeunes Togolais choisissent un quartier de Lomé pour le débarrasser des déchets plastiques qui l'étouffent. L'activité baptisée Eco-Jogging allie jogging et ramassage des déchets plastiques. Félix Tagba est l'initiateur de Eco-Jogging.
Eco-Jogging, c'est un concept qui consiste à courir tout en ramassant les déchets et après à les recycler. Alors, la particularité d'Eco-Jogging, c'est aussi la sensibilisation. Tout au long de notre course, nous avons sensibilisé les populations. Nous leur avons dit de ne plus jeter les déchets dans la rue, mais de les jeter dans la poubelle. Alors, pour notre propre santé, le jogging particulièrement, c'est un sport qui permet de brûler beaucoup de calories.
Les éco-joggeurs, après avoir enfilé des gants, un petit foulée, partent à l'assaut des rues dans la bonne ambiance. Ils scrutent les coins et recoins sur leur parcours à la recherche des déchets plastiques.
Nous sommes heureux de participer à Eco-Jogging qui permet en même temps de faire du sport mais en étant utile pour notre environnement. Nous nous sommes engagés à ramasser les objets plastiques dans les quartiers de notre ville de Lomé qui est vraiment pollué à travers ces déchets plastiques pour que notre environnement soit aujourd'hui assaini et que nous puissions mieux vivre dans le système social.
Je pense que c'est bien puisqu'il y a trop de déchets partout. Ça nous aide aussi pour la santé. Genre courir, c'est bon pour la santé. Et prendre des déchets par terre consiste aussi à faire un peu la propreté, le ménage de l'environnement.
Jean-Paul, ce jeune garçon qui a participé pour la première fois à une course éco-jogging, mesure la portée de son action.
C'est vraiment agréable de courir et de ramasser des déchets en même temps. Ça nous aide à mieux protéger l'environnement parce que les déchets sont très toxiques.
Pour cette séance d'éco-jogging, 21 kg de déchets plastiques ont été ramassés. Des déchets qui sont confiés à une structure de recyclage qui se charge de leur donner une nouvelle vie. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et oui, et c'est la jeunesse pouvait.
De nombreuses femmes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest vont bénéficier du financement de leurs projets. Selon une annonce faite le 17 avril 2019 à Abidjan, lors d'un sommet sur la finance internationale auquel a participé Ivanka Trump, fille et conseillère du président américain Donald Trump. Notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara a recueilli des réactions de femmes entrepreneurs.
Aucune banque ne voulait de moi. Et puis ils ne croyaient même pas à mon activité. Et ils disent que non, la femme n'est pas capable. Pourquoi? Parce que je suis femme, je ne suis pas capable.
Amidou Abdoulaye Nafissa est nigérienne. Elle est la patronne d'une entreprise spécialisée dans la production et la distribution d'aliments pour bétail. Comme elle, de nombreuses femmes entrepreneurs se heurtent à de nombreux obstacles pour financer et faire prospérer leurs activités. Face à ces femmes entrepreneurs venues de toute l'Afrique de l'Ouest, Ivanka Trump était porteuse d'une bonne nouvelle. Il s'agit du WIFI, l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Ce programme vise la croissance et la prospérité des nations ainsi que leur sécurité. Les capitaux arrivent et nous demandons à tous ceux qui sont ici de se joindre à nous pour mener des réformes politiques en vue de promouvoir ces capitaux et permettre aux femmes de prospérer. Amidou Abdoulaye Nafissa a applaudi cette annonce comme toutes les femmes présentes à ce sommet. Elle va bientôt bénéficier de ce financement, ce qui lui permettra de consolider ses activités.
La prochaine étape, c'est d'industrialiser, parce qu'actuellement, c'est semi-industriel. C'est semi-industriel parce que j'ai fait faire ma machine localement. Maintenant, c'est que c'est vraiment industrialiser, être la seule femme au Niger qui a osé industrialiser dans la fabrication d'aliments bétail à base de résidus de récolte.
Nabou Fall, chef d'entreprise dans le domaine de l'innovation et de la communication, applaudit aussi annonce de cet appui aux femmes entrepreneurs.
Je trouve que c'est une très très belle initiative. On a beaucoup de problèmes, de difficultés, nous les femmes entrepreneurs africaines. Donc nous avons vu qu'il y a des lignes de crédit qui vont être mises à la disposition des femmes entrepreneurs. Donc je peux vous dire qu'on est toujours en train de jongler. Quand on a une commande de clients, on est obligé de trouver de l'argent. Comme on peut, soit on récupère un paiement que quelqu'un nous devait, soit on fait la course vers ceux qui nous devaient de l'argent avant pour pouvoir financer les contrats futurs.
Pour Candia Camara, ministre ivoirienne de l'éducation nationale, l'autonomisation de la femme passe inéluctablement par la scolarisation de la jeune fille.
Aujourd'hui, nous avons en projet la construction de 7 lycées de jeunes filles avec internat pour venir accroître encore les capacités d'accueil des jeunes filles, parce que toutes les statistiques démontrent que quand elles sont dans un environnement sécurisé, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes dans toutes ces conditions-là pour que la femme puisse avoir un niveau d'instruction et d'éducation qui lui permet de s'insérer facilement dans le tissu socio-économique.
Plus d'un milliard de dollars devront être mobilisés à terme dans le cadre de ce programme dont l'idée a été lancée en juillet 2017 à Hambourg en Allemagne lors du sommet du G20. Le WIFI est financé par une dizaine de pays dont les États-Unis, le Canada, le Japon, la Chine, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Georges Ibrahim Toulkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et lors de son séjour en Afrique, Ivanka Trump, conseillère à la Maison-Blanche, a notamment promis une aide financière pour soutenir les femmes du village d'Adzopé en Côte d'Ivoire, dans le domaine agricole, à la veille du premier sommet sur le financement de l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest, qui s'est donc tenu à Abidjan.
Entre parenthèses.
Les personnes handicapées en Guinée subissent plusieurs formes de discrimination depuis des décennies. Malgré leurs compétences dans divers domaines professionnels, elles éprouvent toujours des difficultés à être recrutées. En se fédérant, les handicapés ont toutefois plus de chances de s'en sortir, comme certains jeunes qui se sont confiés à notre correspondant Zakaria Camara à Conakry.
Dans les rues de la capitale ou encore devant les mosquées, de nombreuses personnes à mobilité réduite investissent des espaces pour y mener une activité de mendicité. Elles se disent victimes de discrimination et ne comprennent pas pourquoi aucune loi spécifique ne les protège. Omar a perdu l'usage de ses membres inférieurs, même s'il ne manque pas de volonté de travailler, se déplacer reste un calvaire pour lui.
Chacun de nous sont logés très loin, le matin quitter là-bas de se rendre au service, ça tout à fait problème. Il y a plein d'embouteillages, puis il y a d'autres aussi qui refusent de prendre nos amis handicapés, de les rendre là où ils vont. Quoi. Nous avons énormément de problèmes.
Ces personnes ne sont pas parmi les priorités des recruteurs en dépit de leurs compétences. Omar est membre d'une association pour la protection des handicapés. C'est dans un conteneur installé en face des bureaux de la mairie de Matoto que différents métiers sont exercés. Devant sa machine à coudre, Makamara n'entend pas se retrouver à la rue. Je fais la couture pour éviter de faire la mendicité. Je préfère vivre de mon métier. Nous faisons beaucoup de choses ici, comme le tricotage. Face au vide juridique, certaines personnes handicapées tentent du mieux qu'elles peuvent pour sortir d'une situation de précarité. Ibrahima Djané est le président d'Action pour le futur des personnes handicapées en Guinée. Selon lui, on peut réussir même avec un handicap physique.
En Afrique, plus particulièrement en Guinée, une fois qu'on est handicapé, donc on est foutu, on n'a pas de droit, on n'a aucune considération. Partout où vous passez, vous verrez les personnes handicapées au bord de la rue pour faire que la mendicité. Mais nous, on s'est dit non, l'handicap n'est pas synonyme de la mendicité. Un handicap n'est pas une fatalité. On peut être handicapé, être utile pour soi, être utile pour ta famille, être utile pour ta nation.
L'ensemble des personnes à mobilité réduite attend l'adoption d'une loi qui devrait corriger une forme d'injustice silencieuse. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Aïe, notez, 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 aïe, notez
chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.